C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette 58e émission des boulons, l'émission des boulonnés. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une émission mensuelle réalisée dans le cadre d'un atelier thérapeutique en santé mentale par des infirmiers et des usagers du centre médico-psychologique et du centre d'accueil thérapeutique à temps partiel de l'hôpital de Boulogne. Pour cette émission du mois d'août, il s'agit des meilleurs moments. Vous retrouverez donc un poème lu par Cathy. Ensuite, Charlie présentera Final Fantasy, un jeu. Vous aurez ensuite la réinsertion professionnelle par Marianne, puis l'interview de M. Marlier, ancien directeur du centre hospitalier de Boulogne, par Vanessa. La ligne verte, film présenté par Grégory, puis Chic Corea, musicien présenté par Thomas. Ensuite, Julien, accompagné de Marie-Ange, parlera des ouragans. Michel fera sa chronique sport et vous retrouverez pour finir l'émission La recette du jour, présentée par Fernande. Les boulons vous donnent rendez-vous le samedi 25 septembre à 13h ou le dimanche 26 septembre à 15h pour leur prochaine émission. Merci et bonne écoute.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnés.
Alors, comme d'habitude, nous commençons par écouter un poème déclamé par Cathy.
Oui, bonjour. L'amour et l'amitié. C'est un recueil de ballons d'essai en 1802. L'amour nous brûle, nous tourmente souvent et les cause de remords. L'amitié douce et consolante de l'amour répare les torts. L'un est plus malin qu'on ne pense, l'autre est sans phare et sans détour. Pour la franchise et la constance, l'amitié passe avant l'amour. Au plaisir, l'amour nous engage dans le printemps. Il nous séduit, nous croyons fixer le volage quand vient l'hiver. L'amour s'enfuit. Sur l'amitié, dans sa vieillesse, le sage est encore appuyé. Il se dit, loin de sa maîtresse, l'amour passe avant l'amitié. La vie, hélas, n'est qu'un passage et tout doit passer à son tour. Ce passé d'aimer n'est pas sage entre l'amour et l'amitié. Voilà.
Merci Cathy pour ce beau poème. À côté de Cathy, nous avons Charlie. Bonjour Charlie.
Salut Vanessa.
Alors aujourd'hui, tu nous partages ta passion pour les jeux vidéo, voilà. Plus précisément Final Fantasy.
Donc, c'est un jeu qui a été créé en 1987 sur NES par Hironobu Sakaguchi, qui est épaulé par l'artiste Yoshikata Amano. Donc c'est un jeu de rôle au tour par tour, un peu comme Donjons et Dragons. Mais en fait, cela devait être à la base le dernier jeu de Squaresoft, parce qu'ils étaient en faillite, etc. Mais ce ne fut pas le cas, et on a eu 15 opus à ce jour. Donc le 16 devrait sortir dans quelques temps, donc on n'a pas toujours fun.
Excuse-moi, mais tu joues sur quelle console ?
En fait, tu peux jouer sur diverses consoles. Tu as la NES, la Super NES, PC, PlayStation. Enfin, moi, je joue sur PC. Voilà.
D'accord.
Et donc, du coup, ils ont chacun leur propre histoire, donc tu peux commencer par n'importe quel opus. Donc tu as plusieurs univers, donc médiéval, steampunk, futuriste. Donc du coup, le premier épisode, il faut savoir qu'il est sorti chez nous, c'est le 7, donc qui est sorti en 97, parce qu'ils ont été sortis au Japon. Mais en fait, aux États-Unis, donc tu as le 1, le 4 et le 6. Voilà. Donc du coup, en fait, les épisodes de 1 à 6 ont été réédités sur Game Boy Advance, PS1, DS, smartphone et PC. Mais en fait, du coup, Squaresoft a fusionné avec Enix, donc pour faire Square Enix, parce que ils ont fait un échec à cause de Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit, qui est un long métrage. Donc niveau de la jouabilité, donc de 1 à 3, ça se joue au tour par tour. À partir du 4, t'as la jauge ATB, donc qui est l'Active Time Battle. Donc en fait, c'est une sorte de jauge
Attendez, allez moins vite.
C'est l'active battle, donc en fait c'est une jauge qui monte, et dès que ben, c'est rempli, on peut agir, donc ce qui donne des aspects...
C'est l'énergie, l'énergie en fait.
Ouais, grosso modo, c'est pour mettre plus stratégique et tout. Ensuite, on a plusieurs classes à manier, donc on a le guerrier, le mage blanc pour les magies de soins, le mage noir pour les magies de dégâts, le voleur pour voler des trucs. Après, il y a beaucoup de jobs.
Est-ce que tu penses que Final Fantasy vaut, au niveau de la popularité, Fortnite ? Non ?
Je pense que largement.
Ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien
Attendez,
à voir.
Tu me dis oui ou non alors ?
Personnellement, largement.
C'est encore mieux que Fortnite alors ?
C'est différent, mais on peut pas comparer. Mais bon,
vous pouvez pas comparer.
Personnellement, c'est plus, Fortnite, c'est pas ma génération.
D'accord.
Voilà.
Après,
on a aussi des invocations, donc qui sont des attaques puissantes, donc qui ont leur importance dans plusieurs scénarios, donc notamment le 6 et le 8. Après, il y a des épisodes qui se jouent en temps réel, comme le 12, qui est un mélange d'ATB et de temps réel. On a le 15 notamment, qui est le tout dernier, et le 11, qui est un MMO, ainsi que le 14, qui en est un également.
C'est quoi un MMO?
Un MMO, donc c'est un jeu qui se joue massivement en ligne. Donc après, pour les musiques, nous avons Nobuo Uematsu, donc qui est très reconnu dans la musique classique. Donc c'est un gros bonhomme. Donc en fait, il a composé en 2 minutes le prélude qui est disponible dans tous les Final Fantasy. Donc voilà, donc, c'est quand même balèze. Sachant un truc, la musique One Angel Wingen, donc qui est le thème de Sephiroth, donc dans le set, qui est un personnage très connu. Donc c'est inspiré de Purple Eyes de Jimi Hendrix et le Sacre du Printemps de Stravinsky. Donc
d'accord, ok.
Voilà. Pour les inspirations, donc il y a des noms qui reviennent assez souvent comme Cid, donc qui est inspiré du chevalier mercenaire du XIe siècle, inspiré Corneille pour sa comédie appelée Le Cid. Nous avons Big J-Wags, donc qui sont une référence à Star Wars. Luc, je suis ton père.
Non, je suis ton fils. Ah oui.
Je suis content de l'apprendre.
Donc, les invocations, donc diverses, donc qui ont plusieurs noms, GeForce dans Final Fantasy VIII, donc c'est inspiré de la mythologie comme Odin, Bahamut, Ondine et Ifrit. Il y a aussi des noms qui sont liés à la météo comme Cloud qui veut dire nuage, Squall qui veut dire bourrasque, ainsi d'autres noms en latin comme Terra pour terre, Noctis la nuit, et les Chocobos sont inspirés de Nausicaa, la vallée du vent.
Mmh. Ouais, c'est faut être vachement calé au niveau jeu vidéo pour.
Exactement.
J'avoue que j'ai pas tout compris. Hein. Ouais. C'est pour ça que.
Jean-Michel, il est très inspiré aussi. Voilà.
Je voulais te poser une question.
Je te rassure, Michel, moi aussi.
Attends, Cathy veut me poser une question. Me poser une question, Vanessa.
Ouais. Tu joues combien d'heures par jour?
Ça dépend. Enfin, à vrai dire, quand je suis bloqué, en général, je me stoppe. Donc c'est un peu mon...
Et tu cherches pas les solutions sur Internet.
Exactement, c'est ce que je fais.
Non, mais c'est de l'anti-jeu, moi je suis pas d'accord.
Après, j'utilise...
Non, mais moi aussi je le fais. Et ma sœur, quand elle jouait rien qu'un Mario, et qu'on est bloqué, on regarde sur Internet. Non, moi je suis pas d'accord.
Après, c'est plus pour savoir les stratégies, les faiblesses des monstres, tout ça. Après, savoir où aller quand on est vraiment bloqué.
Voilà.
Après, j'étais vraiment bloqué parce que j'étais pas préparé et tout. Donc du coup, j'ai dû utiliser un logiciel de triche.
Il y a
des logiciels de triche.
Quand on est bloqué.
C'est légal. C'est légal. Hein. C'est légal.
Tout à fait. Après, voilà.
S'il te plaît, si c'est pas légal, t'en parles pas.
Il y a pas la police qui va venir chez vous après. Doute.
Voilà, mais après, franchement, on peut commencer par ce qu'on veut. Personnellement, j'ai commencé par le 6 parce que c'est du steampunk, c'est un truc que j'adore. Enfin, j'ai fait la première moitié. Ensuite, j'ai fait le 8 qui est un peu plus futuriste, qui m'a énormément touché. Donc, je suis arrivé quasiment à la fin.
Et donc, en fait, vous jouez en ligne?
Non, c'est du solo.
C'est du solo, d'accord.
Quand tu joues en PC comme ça, t'as pas de manette, donc c'est.
Tu as une manette. Tu peux jouer au clavier, manette.
D'accord. Enfin,
voilà.
Avec un super fauteuil, comme dans les films.
Et un casque.
Voilà. Et puis un casque. Là.
Non, mais moi, je suis de la génération Mario, tu vois, la première Nintendo.
Les premiers sont sortis au Japon sur NES à l'époque de Mario, hein.
Ouais, mais moi, c'est Mario. Moi, mon univers, c'est avec ma mère, mes sœurs, c'est Mario.
Et est-ce que vous faites partie de cette grande famille des gamers?
Largement, depuis mes 9 ans.
Ah oui, d'accord.
Ouais. J'ai commencé par Sonic.
D'accord.
Ah, okay. Sonic, oh là là.
Voilà, donc tous les gamers vont comprendre ce que vous dites.
Je te confirme, t'étais pas né quand c'est sorti, Sonic.
Exactement, c'est ma mère qui me fait découvrir.
Moi,
je pense que j'ai tous fait sur Mega Drive. Hein.
D'accord.
Ouais, c'est ça, sur Mega Drive.
Ouais, Mega Drive.
Oh là là.
C'est le dinosaure, ça, maintenant, Mega Drive.
Voilà.
Ouais. Et tu as joué à Pandemonium?
Pandemonium, c'est...
Non. C'est pas facile, hein, ce jeu.
Voilà, je pense que c'est tout.
Bon, bah, c'est gentil.
Ah ben, merci, Charlie. Alors, sans plus attendre, nous allons passer à notre deuxième chroniqueuse. Nous allons appeler tout de suite Marianne, qui va nous faire sa rubrique sur la réinsertion professionnelle. On appelle tout de suite Marianne.
Allô ?
Oui, bonjour Marianne.
Bonjour Marianne.
Bonjour. C'est...
Bonjour Michel.
t'as reconnu ma voix.
J'ai reconnu ta voix.
Alors, nous sommes sur dans le studio des Boulons, l'émission des Boulonnais.
Bonjour Luc, oui.
Et puis, nous te sollicitons pour la rubrique.
J'entends
sur la...
très 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 mal par contre. Je comprends pas ce que vous dites.
Alors, nous vous sollicitons pour votre rubrique, vous nous faites votre rubrique si vous voulez bien, sur la réinsertion professionnelle. C'est à vous Marianne.
Tout à fait. Alors, bonjour à vous tous. Donc, aujourd'hui, j'ai eu envie de m'exprimer sur mon parcours professionnel qui a parfois été chaotique, avec surtout 8 années de traversée du désert sans pouvoir travailler et un pronostic d'évolution quasiment nul du fait d'une incapacité à pouvoir communiquer verbalement. En 2018, survient une guérison inattendue et voilà que j'ai l'immense bonheur de pouvoir reparler. Et en toile de fond, une question. Et si j'étais capable de retravailler alors ? En 2019, j'occupe plusieurs emplois, je fais des formations. Et 2020, c'est décidé, sera l'année de ma consolidation professionnelle. C'est parfois laborieux, je dois réapprendre à me faire confiance, prendre sur moi, retraverser la peur de mal faire, de me planter, et si je m'effondrais de nouveau. Ça m'a pris du temps et un premier confinement pour plonger au fond de mes doutes, jusqu'à renoncer à un emploi sur mesure, mais qui ne correspondait pas à mes valeurs, et me décider à renouer avec mon premier amour, le travail social. Depuis septembre, j'ai donc intégré une formation qui m'accompagne vers cet objectif. En octobre, j'ai réalisé un stage en immersion dans l'équipe de rue d'une association qui accueille des hommes sans domicile. Nous avons rencontré chaque jour 10 à 20 hommes à la rue. Ceux-ci appellent le SAMU social en indiquant ce dont ils ont besoin, un repas, une couverture, une tente par exemple, que nous leur apportons sur le lieu de rendez-vous qu'ils nous ont fixé, ainsi que le courrier s'ils sont domiciliés à l'association et des informations concernant les démarches administratives en cours. En début de soirée, nous nous retrouvons avec l'équipe au bureau, le temps de rédiger les comptes rendus d'intervention et d'assurer le suivi des dossiers. De 20h à 23h a lieu la maraude, c'est-à-dire que nous allons à la rencontre d'hommes éloignés du dispositif, peu ou pas en demande d'aide. Nous faisons le tour des squats possibles ou en réponse à des signalements pour établir un premier contact en discutant autour d'un sandwich ou d'un café. Ces hommes parlent des langues différentes ou parfois refusent de s'exprimer. Ils ont un point commun, une période d'errance qui les a abîmés sur le plan physique et psychique et sont souvent en perte de repères et de sens. J'aime pourtant beaucoup cet aspect du travail. On peut y prendre le temps de créer du lien, de la confiance. Ce qui se passe est inattendu, surprenant. Il y a même de la place pour des moments de rire. Parfois, c'est plus dur, tant nous sommes confrontés à des situations de grande détresse. Et dans ces moments, je n'oublie pas ma nouvelle devise, une réflexion de ma formatrice. Ça peut être un emploi difficile, sans pour autant qu'il soit douloureux. Et je retrouve alors la motivation de faire ma part, aussi minime soit-elle. L'équipe éducative m'a fait confiance et permis de m'impliquer dans toutes les tâches. J'ai été encouragée à continuer sur cette voie, qui, je n'en doute plus, est la meilleure que je puisse vivre. Je vais donc y retourner pour un stage plus long, avec confiance et enthousiasme. En fait, je crois bien qu'être éducatrice, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. J'aimerais par ce témoignage encourager ceux qui nous écoutent, dont mes collègues de l'atelier radio, à garder de beaux projets en tête. La maladie nous a souvent obligés à faire des deuils de ce qu'on aurait aimé être, faire. Elle a créé des ruptures et des échecs. Mais être vulnérable, c'est aussi le point commun de toute l'humanité. Et ça ne nous empêche pas de trouver un moyen d'y être utile et de nous réaliser. Que ce soit par le travail, le bénévolat, les activités, auprès de nos relations, on a tous quelque chose à apporter au monde. Et voilà, c'est sur cette jolie envolée lyrique que je vous propose d'écouter une bonne vieille chanson bien inspirante de Jean-Jacques Goldman, Au bout de mes rêves.
Merci Marianne.
Merci Marianne. Et bravo.
Merci à vous.
Bravo. Bonne journée à vous. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Et même si le temps presse. En soufflant dans les
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Alors, bonjour Yves Marlier.
Bonjour.
Alors, vous êtes le directeur général du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer et vous quitterez prochainement l'établissement pour de nouvelles fonctions. Vous êtes arrivé en 2010 sur le littoral après avoir été l'adjoint au directeur du centre hospitalier de Roubaix durant 2 ans. Vous venez d'être nommé à la tête du centre hospitalier de Dunkerque. Depuis le départ de Bruno Donius en juillet dernier, le CHD, le centre hospitalier de Dunkerque, n'avait plus de directeur, remplacé provisoirement par Justine Lebig. Aujourd'hui, c'est vous qui avez été retenu parmi les 6 candidatures. Alors, pourquoi ce choix de départ, Monsieur Marlier ?
Alors, la carrière d'un directeur d'hôpital est... La carrière d'un directeur d'hôpital est un peu compliquée. Nous sommes amenés statutairement à devoir avoir des mobilités. Et sur les établissements les plus importants, pour assurer le maintien d'un dynamisme, le législateur, le gouvernement, le décret, nos décrets statutaires nous imposent d'avoir une mobilité obligatoirement tous les 8 ans. Nous sommes nommés détachés sur un mandat de 4 ans. On ne peut pas en faire plus de 2. J'aurais fait, moi, sur un système un peu dérogatoire, 2 ans de plus. J'arrive au bout, là, du coup, quand même, du mandat qui m'est donné. Et donc, je suis très attaché à la région. Et j'ai souhaité rester dans cette région. Par ailleurs, sur le littoral, pas très loin de Dunkerque, pas très loin de Boulogne, puisque Dunkerque et Boulogne sont quand même deux établissements importants, structurants en matière sanitaire sur le littoral, et deux établissements, je pense en plus, qui doivent, je pense, à l'avenir, avoir des coopérations pour structurer et maintenir une offre de soins très spécialisée sur le littoral, pour pouvoir garantir aux patients du littoral une offre de santé spécialisée, en proximité et de qualité.
D'accord. Alors, comment se sont passées les 10 années à Boulogne ? Qu'est-ce que vous avez aimé ou moins aimé ? Qu'est-ce que vous gardez de votre expérience sur Boulogne ?
Alors, mon histoire avec Boulogne, elle est aussi affective. Elle n'est pas que professionnelle. Le Boulonnais, je crois que je l'avais dit lorsque je suis arrivé. Moi, j'ai passé toutes mes vacances d'enfance à Audrecel. Dans les années 60, où on partait avec la 403 et la galerie sur le toit et les mâles, hein, puisque je suis le dernier d'une famille de 8. Donc nous étions nombreux, à 7 dans la 403, 2 qui partaient en train. Donc ça, c'est des souvenirs. Et c'est vrai que c'est cet attachement un petit peu affectif à ce territoire. Mais d'ailleurs, un attachement qui, professionnellement, est aussi mêlé forcément de sentiments et d'affection. On ne passe pas 10 ans dans un établissement sans tisser des liens qui soient autres que professionnels avec les gens avec qui on travaille, d'autant plus dans un hôpital où le cœur du fonctionnement, c'est forcément l'humain. Et l'humain, c'est aussi une grosse partie de sentiments. Ce n'est pas que de la raison, forcément.
Et ça passe vite 10 ans, hein, quand même.
À 10 ans, m'en parlez pas, je suis arrivé à Boulogne, j'étais encore jeune et fringant, je vais partir de Boulogne, je suis maintenant grand-père et j'ai 4 petits-enfants, donc j'ai pris un coup de vieux en 10 ans, effectivement.
Alors, qui vous remplacera sur Boulogne ? Est-ce une femme ? Est-ce un homme ?
Alors, la procédure de succession à l'hôpital de Boulogne a été enclenchée, puisque le poste a été publié là, à la mi-janvier. Les candidats potentiels avaient 3 semaines pour se déclarer. Le ministère, comme pour Dunkerque, va réduire la liste à 6 noms. Cette liste sera arrêtée normalement à la mi-mars. Et là, la procédure réelle de choix entre les 6 candidats va s'enclencher. Donc, le futur directeur devrait être connu avant l'été et prendre ses fonctions avant l'été.
D'accord.
En attendant, comme vous l'avez dit, il y aura une femme qui fera l'intérim.
Ah, c'est ce que j'allais dire, parce que vous dites le directeur. Je me suis dit, est-ce que c'est un homme ?
Non, non. L'intérim, c'est donc ce sera Valérie Genest qui est actuellement directrice de la stratégie, qui va faire l'intérim. Là aujourd'hui, sur les candidats qui se manifestent, il y a quelques femmes. Je ne sais pas si elles seront retenues par le Centre national de gestion. En principe, oui, puisque la règle de la parité s'applique aussi, et c'est fort heureux, à la fonction publique hospitalière. Donc, le président de conseil de surveillance et le directeur général de l'ARS auront à choisir parmi ces six candidats, cinq ou six candidats. Et candidateux.
Ma merci.
Mais moi-même, je n'ai jamais totalement nié la part de féminité que j'avais en moi.
Bon. Mais vous êtes connu, hein, vous passez un peu partout, on vous voit en photo, on dit « Oh, quel bel homme, monsieur marié ». Non, mais c'est vrai, ce n'est pas des mensonges. Et voilà, donc apparemment, c'est quelque chose d'important, c'est un changement dans votre vie, mais aussi celle de Boulogne, un nouveau directeur. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour nous parler de votre parcours. On tenait aussi à vous remercier, monsieur Marlier. Merci à vous pour votre dévouement et votre investissement pour notre projet radio. Cette émission mensuelle dans un cadre thérapeutique qui permet à des anciens patients de la psychiatrie de pouvoir s'exprimer, de reprendre confiance en eux. L'équipe des Boulons, l'émission des Boulonnais, a fêté sa 50e émission récemment. Cela fait 5 ans déjà que cette aventure existe grâce à votre soutien. On tenait à vous remercier. Une bonne continuation et peut-être aussi un futur projet à l'hôpital de Dunkerque. Bonne continuation.
Est-ce que je peux perturber un petit peu votre émission?
Oui.
Avec moi, à mon tour, au contraire, adresser le remerciement moi, à la radio des Boulons. Moi, j'ai l'équipe que j'ai rencontrée, à la fois évidemment de soignants, mais l'équipe de patients qui s'est mobilisée et qui est restée particulièrement investie ces dernières années. Je veux vraiment les remercier parce que j'ai l'habitude de dire un directeur peut faciliter des choses. Si les gens ne sont pas là pour porter les projets, un directeur ne peut rien. Et je pense vraiment cette radio, c'est vous qui l'avez faite, c'est vous qui l'apportez. Je pense que le message auquel je tiens beaucoup, moi, de normalisation de la psychiatrie, d'ouverture de la psychiatrie, d'explication de la psychiatrie, d'intégration de la psychiatrie et des patients dans la ville, c'est grâce à des vecteurs, des émissions comme la radio des Boulons, qu'on arrive à diffuser au sein de la population, que les gens comprennent et qu'ils disent bah, finalement, c'est nous. C'est nous, c'est des gens comme nous. Je rappelais quand on a ouvert le centre de psychiatrie qu'un Français sur trois serait atteint d'un trouble de nature psychiatrique dans sa vie. Et je pense que c'est important que tout le monde ait ça en tête et de se dire bah, la psychiatrie, c'est une maladie qui se soigne, mais comme toutes les maladies qu'on peut avoir, des fois on se casse une guibole. Et bien quand on se casse une guibole, on est aussi handicapé et on reste dans le tissu social.
Non.
Et je pense, grâce à vous, et bien je pense que cette démystification de la psychiatrie, elle est vraiment, elle marche, elle avance. Et moi, c'est une vraie réussite. Si je voulais la retenir, en tout cas, c'est vraiment, moi, une vraie fierté, en tout cas, qu'on ait pu construire ça ensemble sur ces 10 dernières années.
Je voulais dire aussi, vous me faites penser à un micro-trottoir qu'on avait fait. Donc, on a pris notre micro, on est allé dans la rue, on a posé des questions à des personnes. Et la question était simple, si on vous dit le mot psychiatrie, vous pensez à quoi ? Et on a eu deux sortes de réponses. Donc, il y en a, c'était c'est des fous, c'est des malades mentaux, voilà. Et il y a d'autres gens qui répondaient, c'est un centre de soins, on se soigne, la maladie mentale n'est pas... Enfin, les fous n'existent pas, voilà. Donc on avait vraiment deux réponses différentes et ça nous confortait de savoir l'avis des gens. Donc c'est gratifiant, c'est beau.
Ouais, bah moi je voulais juste rajouter hein, par rapport à ce que vous venez de dire, Monsieur Marlier, c'est qu'en effet ce projet existe parce que les usagers sont là et parce que les usagers nous poussent aussi, hein, Luc, hein, quelquefois. Au début, moi, quand on a travaillé ce projet, c'était compliqué, on n'avait pas de radio, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes intervenu pour qu'on puisse bénéficier d'un rendez-vous, et on faisait quand même les ateliers, sans radio. On construisait ce fameux projet et quand on arrivait avant l'atelier, on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire quoi ? Et quand on ressortait de cet atelier, on était boosté par les usagers qui, eux, étaient moteurs et disaient « Allez, on y va, on y va, on y va ». Et c'est ce qui a amené, en effet, la réussite. Parce que c'est une réussite pour moi, ce fameux projet. Et s'il existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'en effet, les usagers sont là, viennent avec des chroniques. Le travail est toujours fait et on en a la preuve aujourd'hui. Hein, Vanessa a écrit seule, hein, on a juste lu en venant, mais a écrit seule la présentation, les remerciements. Et voilà, Vanessa fait partie du groupe depuis le début. Et d'ailleurs, je te remercie de t'investir comme tu le fais.
Merci Cédric.
On va conclure. Luc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Vanessa?
Un dernier remerciement. En espérant vous revoir aussi sur les réseaux sociaux ou on ne sait jamais. Ou aller chercher du pain à Audrecelles. Ouais.
Mais chaque fois que les boulons m'inviteront, je viendrai.
Ah bon, c'est bien. Bonne continuation. Merci.
Merci.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Bonjour Luc.
Bonjour Grégory. Alors Grégory, vous avez vu le film La Ligne Verte. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer de quoi ça parle ?
Ça parle des prisonniers.
Voilà. Ça se passe dans quel pays ? Aux États-Unis, je crois. Hein. Ouais. C'est bien ça ?
Ouais, c'est ça.
Et puis, donc, c'est l'histoire de prisonniers. Et puis, il y a un prisonnier peut-être un petit peu spécial par rapport à d'autres. Oui. Il s'appelle comment, ce prisonnier ?
Attends.
John ?
John Café.
John Café, comme le...
Comme café.
Comme le café, voilà. Et puis, lui, il a un petit pouvoir extraordinaire. C'est lequel ?
La magie.
Voilà, la magie. En fait, il est capable de faire revenir ou d'enlever certains mots que peuvent avoir les humains. Hein,
oui.
C'est bien ça. Hein.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et est-ce qu'il y a, des gens qui ne sont pas très, très sympathiques là-dedans hein.
Ouais, le gardien.
Le gardien, voilà. Le gardien de prison. Hein. Il s'appelle comment déjà, celui-là Persine.
Ouais, Persine.
Ah, c'est Persine. Hein. Ouais, ouais. Ah, pas génial, pas génial.
Il a tué un détenu.
Voilà. Mais il finit mal, lui. Hein.
Ouais.
Hein, ouais, ouais. Bon, on ne va pas aller plus loin.
Non.
Est-ce que d'autres personnes ont vu ce film
oui.
ou lu ce...
Je crois que tu as oublié de dire qu'ils sont dans le couloir de la mort.
Oui,
ah,
tout
ouais,
à fait.
C'est,
ouais, ouais.
C'est très important. C'est ouais. des condamnés à mort qui sont ouais.
Alors,
dans
c'est
film,
pour ça que ça s'appelle La Ligne Verte, d'ailleurs.
C'est pour ça que ça s'appelle La Ligne Verte.
Parce
voilà.
que le sol est ouvert.
Est ouvert, voilà.
Et d'ailleurs, c'est pas bête d'ailleurs de l'avoir appelé comme ça. Hein.
Ouais,
c'est vrai que. Et est-ce que vous savez de qui est tiré ce livre ? Parce que c'est tiré d'un livre.
De Stephen King.
Oui, tout à fait. Alors d'habitude Stephen King, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des gros pavés. Il écrit des gros bouquins. Et là, il a fait ce livre par épisode. C'est-à-dire que il faisait des petits fascicules. Où il faisait un chapitre et on lisait ce chapitre. Et
on avait envie de,
connaître la suite et il fallait attendre la semaine d'après pour pouvoir avoir la suite.
C'était en plusieurs tomes alors comme
c'était, oui, c'était en fait des nouvelles qu'il faisait, on appelle ça des nouvelles. Et bon, maintenant, mais au départ, hein, quand il a conçu ce livre, maintenant vous pouvez l'avoir en tome complet.
Mais dramatique hein, quand même, ça reste un film.
Oui.
Dramatique.
Assez.
Ah, moi, je trouve pas. Je trouve que c'est un film merveilleux sur la relation entre Tom Hanks et,
oui,
et John Café.
C'est
et,
vrai.
Et voilà. Et je trouve que ça, c'est, ça a pas de prix. Enfin c'est, voilà, c'est mon ressenti. Je trouve que c'est un très, très beau film.
Ouais.
Est-ce que vous avez apprécié ce film
Excellent.
Excellent. Vous mettriez combien une note sur 20 pour ce film ?
20 sur 20.
20 sur 20, oh là là, ouais,
moi
ça
aussi,
c'est.
Moi
vous
aussi,
aussi. Ah oui. Ah ouais. Oh, il est très bon, Stephen King.
Ouais,
il est excellent.
J'ai versé ma petite larme quand même, parce que malgré son innocence, bon, on sait pas qu'il est. Enfin, nous, on sait qu'il est innocent, mais il a quand même été sur la chaise électrique.
Oui, mais il l'a demandé. Je sais pas si vous vous souvenez du film. Ouais. En fait.
Je veux mourir, oui.
Voilà, parce que il faut savoir qu'il captait en fait toutes les pensées de tout le monde.
Oui.
Et il essayait justement, grâce avec ses pensées, à résoudre certains problèmes, etc. D'où, en fait, son innocence, parce qu'en fait, on croyait qu'il avait tué
les deux petites filles,
mais en fait, il essayait de les sauver. Ouais. Ouais. Et c'était hors de ses forces, parce qu'elles étaient déjà décédées depuis longtemps. Enfin, bref. Ouais. Et du coup, rappelez-vous, voilà. Le Tom Hanks, le maton, demandait s'il voulait le faire libérer, etc. Il a dit non, moi, je veux mourir, parce que j'en peux plus. J'en peux plus de ce don. Souvenez de ça.
Mais c'est choquant quand même, la chaise électrique.
Ah oui. Mmh. Oui, tout à fait. Ah, oui. Il y a plein de messages en fait dans ce film.
Ouais.
Il y a tout à fait plein de messages sur justement la peine de mort, qui n'est toujours pas abrogée dans certains États.
Je voulais poser la question à Grégory. Est-ce que tu peux me donner le nom de la petite souris qui était adoptée par un
détenu.
Un détenu dans la cellule. Est-ce que tu t'en souviens?
Mr. Jingle.
Comme notre jingle.
Voilà, exactement. Ah ouais. Eh bien, merci bien.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Et donc tout de suite avec Thomas, tu vas nous présenter Chick Corea.
Bonjour à tous, donc je vais vous parler de Chick Corea, de son vrai nom Armando Anthony Corea, qui est décédé il y a un mois et demi, donc le 9 février 2021, à Tampa Bay en Floride, à l'âge de 79 ans. Donc il était né le 12 juin 1941 à Chelsea dans le Massachusetts, toujours aux États-Unis. C'était un pianiste, claviériste et compositeur américain de jazz et de jazz rock. Donc nous commençons cette chronique sur le second mouvement du concerto d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo, un concerto pour guitare et orchestre en ré majeur qui date de 1939 lors de son dernier séjour à Paris. En effet, Chick Corea reprit ce thème musical pour un arrangement jazz rock d'un très célèbre morceau qui s'appelle Spain. Et remarquable pour sa mise en place, en fait tous les instruments jouent en homorythmie, c'est un terme spécifique qui signifie jouent tous ensemble sur un même rythme. Donc nous allons écouter les deux premières minutes de ce morceau, donc le début de Spain. Ça se termine par la mise en place de 3-4 instruments qui jouent tous ensemble, qui font des breaks à rallonge. Voilà, donc je vais vous parler de la jeunesse de Chick Corea. Donc, pour résumer vite fait, dans les années 60, il est membre du groupe de Miles Davis, encore un qui collabore avec le fameux Miles Davis. Et donc, il participe à l'essence du jazz rock avec d'autres pianistes comme Herbie Hancock, McCoy Tyner, Keith Jarrett. Il fait partie des pianistes les plus influents depuis les années 70, un des plus notoires à notre époque. Et c'est également un excellent pianiste classique. Il a très peu enregistré de musique classique. Donc dans sa jeunesse, donc il est d'origine italienne. Son père était trompettiste, il jouait de la trompette Dixieland, c'est un genre un peu New Orleans, les premiers temps du jazz, dans les années 30 et 40. Et son père le met au piano à l'âge de 4 ans. Chick Corea est vite influencé par Dizzy Gillespie, le trompettiste, Charlie Parker, saxophoniste, Bud Powell, Horace Silver, Lester Young, tous des jazzmen de cette époque-là, des années 30-40. Et à 8 ans, il apprend la batterie, ça influera sur son jeu rythmique et percussif au piano. À 8 ans également, il prend des cours avec un concertiste qui va développer son goût pour la musique classique et la composition musicale. Et un jour, son père lui offre un costume et donc ça sera l'occasion de faire ses premiers concerts dans son collège et dans les clubs de jazz locaux. En 1959, la famille déménage à New York. Lui, il étudie pendant un mois seulement à l'Université de Columbia la musique, puis 6 mois à la Juilliard School. Il est déçu par les deux écoles, mais il apprécie beaucoup l'atmosphère musicale de la ville de New York. Alors, au club Birdland, il entend le morceau Les Feuilles Mortes, standard bien connu, interprété par Miles Davis et John Coltrane. Ça lui fait un déclic et il abandonne l'université et décide de se lancer en autodidacte, en freelance, en fait, dans la musique. Donc, ses débuts. Donc, dans les années 60, il joue pour Cab Calloway, Blue Mitchell. Et il fait du Latin jazz aussi avec Herbie Mann, Willy Bobo, Mango, Santa Maria. Et sa première composition est enregistrée en 1964. Elle se nomme Chick's Tune, la mélodie de Chick en fait. Donc c'est déjà des mélodies anguleuses et des rythmes latins qui caractérisera plus tard son style. Bon, il faut préciser qu'il participe à l'avant-garde dans les années 60-70, l'avant-garde du jazz, qui donnera naissance au jazz fusion, le jazz rock. Donc son style va devenir plus dissonant. En septembre 1968, il remplace Herbie Hancock dans le groupe de Miles Davis. Il jouera sur les différents albums des grands albums de Miles Davis qui ont marqué l'histoire du jazz, comme Beaches Brew, Les Filles du Kilimanjaro, In a Silent Way. Alors il expérimente les instruments électriques, en particulier le piano électrique, le Fender Rhodes, et également des effets sonores pour moduler le son, comme le Ring Modulator, qui est un effet très spécifique que Stockhausen, par exemple un compositeur contemporain, a beaucoup utilisé. En 1970, il crée Circle avec Dave Holland, son groupe de jazz, et ils vont faire avant tout du free jazz. Ils enregistrent pour Blue Note et ECM. En 1971, il crée le groupe Return to Forever, avec qui il enregistre énormément d'albums, c'est dans le style jazz-rock des années 70. Quoi. Et en 1973, le groupe change. Chick Corea utilise de plus en plus les synthétiseurs, les fameux synthétiseurs Moog ou Moog, je ne sais jamais comment on dit. Et leur dernier album, ça sera en 1977, et il se nomme Romantic Warrior. Voilà, il enregistre, il est hyper prolifique, il gagne 23 Grammy Awards sur toute sa carrière, il enregistre plus d'une centaine d'albums, et dans les dernières années de sa vie, bon, en 2008, il y a Return to Forever, leur groupe se reforme, et ils font une dernière tournée mondiale, et en 2009, il en sort un DVD. Voilà, et donc il est décédé, je le rappelle, le 9 février 2021.
Très bien, très bien. Oui, Luc ?
Je voudrais juste ajouter une petite anecdote. Thomas, c'est le seul chroniqueur, pour dire comme il est passionné de musique,
oui,
qui écrit ses chroniques sur des partitions.
Ah.
c'est tout.
C'est une poésie.
Donc, sur la fin de la chronique, vous avez entendu Addendum, un trio pour violon, violoncelle et piano, un morceau de 1983. Je vous laisse écouter la suite et la fin. Thank you.
Merci Thomas.
Très beau morceau, en effet, hein, Vanessa.
Ah oui, franchement, j'ai adoré. J'écoute pas souvent, mais là, franchement, c'était agréable. Merci Thomas. On va laisser la parole à Julien. Alors Julien, si je te dis le vent est fort, la mer est déchaînée, est-ce qu'on peut craindre un ouragan? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus?
Bah, c'est ce qu'on va essayer de décrire dans ma chronique. Donc, notre chronique, vu que je l'ai faite avec Marie.
Bah, merci Julien. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un ouragan?
Alors, un ouragan, c'est en quelque sorte une forte tempête où les vents dépassent les 119 km/h. C'est tout le temps en fait accompagné de nuages et de pluie.
Et du coup, comment se forme-t-il?
Il faut que des masses d'air chaud se forment au-dessus de l'océan, ce qui entraîne une diminution de la masse volumique de l'air. Alors c'est compliqué, moi j'ai pas tout compris non plus, mais c'est mes notes. De la masse volumique de l'air, et qui forme une zone de basse pression atmosphérique qui engendre des vents violents, montants et tourbillonnants. Plus la pression est basse, plus les vents sont importants. Alors la pression atmosphérique, c'est la force exercée par le poids de l'atmosphère sur la superficie de la Terre.
Quelle est la différence entre un ouragan, un cyclone et un typhon?
Au niveau météorologique, il n'y a pas de différence, mais l'appellation, ça dépend de l'origine géographique du phénomène. Un cyclone se forme dans l'océan Indien et dans le Pacifique Sud, tandis que l'ouragan se forme en Atlantique Nord et dans le Pacifique Nord-Est. Enfin, le typhon se forme dans le Pacifique Nord-Ouest.
Et suite à tout ça, est-ce qu'il y a une période de l'année où les ouragans sont plus fréquents?
Alors, pour les ouragans spécifiquement, parce que il y a une différence, on l'a vu juste avant, entre les cyclones, les typhons et les ouragans, mais pour les ouragans spécifiquement, la période des ouragans, ça commence le 15 mai, et ça finit le 30 novembre.
Ah, donc du coup, il y a une période... Ok, il y a vraiment des dates qui...
Il peut y avoir 15 jours de battement, quoi, mais voilà. Quoi,
ouais.
C'est en gros,
En général, dans la même tranche, ok. Donc, est-ce que, du coup, il y a eu des records de vents enregistrés?
C'est difficile de mesurer les vents maximaux d'un cyclone. On passe souvent par la mesure de la pression atmosphérique au niveau de la mer pour estimer son intensité. Mais on peut quand même avoir des mesures approximatives. Donc ce serait le typhon Nancy, dans le nord-ouest de l'océan Pacifique, qui eut les vents soutenus les plus violents. Soutenus, c'est donc plus d'une minute. S'établissant à 340 km/h le 12 septembre 1961. En vent instantané... il y a eu un autre record qui monte celui-ci à 408 km/h en vitesse de vent instantané pour le cyclone Olivia enregistré en 96.
Ok.
Qu'est-ce qu'un anticyclone? On a vu le cyclone.
Donc maintenant c'est l'anticyclone. Donc un anticyclone c'est l'inverse du cyclone. Donc c'est une zone de haute pression atmosphérique avec temps sec et sans nuages. Donc il est constitué par une masse d'air froide.
Ok. Quelles conditions de température pour un ouragan?
Donc pour un ouragan, les conditions de température, il faut un minimum de 26 degrés à une profondeur de 60 mètres.
Qu'est-ce qu'une onde de tempête et comment se forme-t-elle?
Donc une onde de tempête est une montée des eaux qui peut parfois atteindre 6 mètres de hauteur. C'est l'océan qui est soulevé dans les airs à cause, encore une fois, de la basse pression atmosphérique.
Encore deux petites questions. Donc, la première, où se produisent les ouragans le plus fréquemment?
Il y a environ 45 cyclones par an sur le globe. Donc, c'est le nord-ouest du Pacifique qui concentre le plus de cyclones, avec 35% des cyclones totaux. C'est aussi dans cette région qu'ils sont les plus violents. Sinon, plus de 70% d'entre eux se concentrent sur l'hémisphère nord.
Et la question finale, quel cyclone fut le plus meurtrier?
Donc, c'est le cyclone de Bola. Qui est le plus meurtrier pour la finale. Il s'est abattu sur le Bangladesh et l'état du Bengale occidental en Inde les 12 et 13 novembre 70. Donc officiellement, il fut entre 224 000 et 300 000 victimes, officieusement 500 000 victimes ainsi qu'un préjudice de 86,4 millions de dollars.
Millions, milliards, je ne sais plus.
C'est noté millions.
D'accord.
C'est déjà beaucoup.
Oui, ouais. C'est déjà énorme.
Oui, bah oui, ouais.
Je peux rajouter une petite question ?
Oui.
Après, je ne sais pas si vous pourrez y répondre. On dit pourtant un ouragan, et à chaque fois, ce sont des prénoms féminins. Pourquoi ?
Parce que les femmes sont des tempêtes. Je ne sais pas. Peut-être.
Ok, je valide.
À ton avis, Julien ?
Non, je crois que normalement, c'est un prénom masculin et un prénom féminin. Depuis pas longtemps, c'est comme ça, on fait un sur deux, je crois.
C'est un sur deux.
Il n'y a pas de dialogue.
La parité des ouragans.
Donc, en tout cas, ceux que vous avez énumérés, ce ne sont que des ouragans féminins. Olivia,
les plus dangereux.
Erika.
Ouais. Nancy. Nancy, c'est féminin ou masculin, ça ?
Nancy, c'est féminin. Ouais.
Bah, écoutez, on vous remercie pour cette rubrique qui décoiffe Marie-Ange.
C'est fou ce que la psychiatrie a changé.
L'homme qui n'entend pas la musique pense que le danseur est fou.
Les boulons.
Les boulons.
Les boulons.
L'émission des boulonnais.
Nous allons écouter Michel pour un petit quiz. Quiz sport, bien sûr. Hein.
Un petit quiz sport. Hein.
Allez, vas-y, Michel, on t'écoute.
Voilà, je commence par ce que j'avais terminé dans le quiz précédent, c'est-à-dire le nom de stade. Je voudrais que vous me donniez le nom du stade nommé Camp Nou. Où se situe-t-il ?
Ah, je le sais, le Camp Nou. C'est Barcelone.
C'est Barcelone, oui, c'est ça.
Magnifique stade, énorme, ouais, énorme.
Que tu as visité d'ailleurs.
J'y suis allée voir un match. J'ai fait les deux, je l'ai visité et après je suis allée voir un match.
Ça devait être
c'est
super.
Énorme, 80 000 personnes.
Ah, 80 000.
J'ai trouvé que ce qui était impressionnant, c'est la vie autour du stade avant le match.
Avant le match, c'est, oui. Les supporters. Ouais.
C'est énorme.
Moi, j'ai même un souvenir de ce stade parce que tu as ramené une écharpe pour mon fils.
Ah, c'est vrai. Dis donc, tu te souviens de ça ?
Je me souviens très bien de tout ça.
Ah, dis donc.
Elle est toujours dans sa chambre. Alors.
C'est trop. Mes questions sont trop faciles, je crois. Un autre stade prestigieux, le stade Santiago Bernabéu.
C'est le stade de Madrid.
C'est Madrid, oui. C'est bien ça. Un autre stade, un peu. Comment dire un peu plus loin, le stade Aztec.
Au Mexique ?
C'est au Mexique, c'est à Mexico, oui. Ils ont joué la Coupe.
J'ai pas de mérite.
Oui.
Vous êtes allé, Luc ?
Non, non, pas du tout.
Non, mais Aztec. Au Mexique, il y a les Aztecs.
Mais peut-être un jour, j'irai.
Peut-être.
Alors là, je vais vous poser sur certains joueurs. Dans quel club joue Cristiano Ronaldo ?
Il change tout le temps aussi. Hein.
Ah, ouais. Il change souvent.
Mais il est retourné.
C'est pas Madrid ? Il n'est pas à Madrid ?
Il n'est plus à Madrid.
Il n'est plus à Madrid, il est parti.
Dans un club espagnol, quand même ?
Non, anglais.
Non,
anglais.
Non, non, pas anglais.
Non plus ?
Il a joué à Manchester.
Oui, c'est ça.
Mais là, il est parti dans un autre pays, oui.
Au Bayern ?
Non.
En France ?
Non, franchement, je ne sais pas.
En France ?
Non, il joue en Italie maintenant.
En Italie ?
Ah. Oui.
À la Juventus.
À Juventus,
d'accord, ça.
C'est bien, Luc.
Ah, c'est lui.
Bon, maintenant, je vais vous donner des noms de sportifs et vous allez me dire dans
quelle discipline
ils pratiquent. Oui. Alors, Alexis Pinturo.
La peinture ?
Ouais.
L'escrime.
Non, c'est pas l'escrime.
C'est pas le ski ?
C'est le ski, oui.
Oh, là. Trop fort, Yannick.
Non, mais...
Thibaut Pinot.
Pinot, c'est un peu flic.
Le vélo ?
Oui, c'est le cyclisme. Ah, oui. Oui, c'est ça.
Bien, Vanessa.
Les sœurs Williams.
Elles auraient pu, mais elles ont préféré le tennis.
Un peu plus dur, Émilien Jacquelin.
C'est un sport connu ?
Rugby connu.
C'est un sport collectif ou
individuel ?
Ou individuel, ça nous
ouais,
dit.
C'est les deux. Ils font par équipe.
Patinage
aussi.
Artistique.
Ils font par équipe.
Ah,
alors, aussi, ils font par alors, équipe aussi, mais.
Biathlon.
Ouais, c'est ça. Benoît Paire.
Le tennis.
C'est ça, c'est le tennis, oui. Et la dernière, je vais finir par une femme, Amandine Henry.
Football. Natation.
Le football.
Le football, oui, c'est ça. Voilà.
C'est... Merci Michel, hein, c'était... Mmh.
C'était pas trop dur quand même.
Non, ça a été, on s'en est sorti.
Ouais, c'était bien. Ouais.
Poireau.
Sucré.
Cassonade.
Chocolat.
Confiture.
T'es là.
La recette du jour.
Alors d'abord, on va commencer par les ingrédients. D'abord.
Les ingrédients, il faut des feuilles de lasagne, il faut de l'hachis de bœuf,
oui.
Il faut un oignon,
oui.
Une carotte, la sauce concentrée de tomates, et c'est tout pour... faire la feuille, après il faut faire une béchamel.
Ouais. Donc pour la béchamel, qu'est-ce qu'il faut?
Il faut prendre une casserole, faut faire fondre du beurre. Moi je fais au pif.
D'accord.
Je mets un peu de beurre, je mets de la farine, je mélange avec de la farine. J'attends le beurre qui fondu.
Ouais.
Je mets la farine après pour que ça soit un roux.
Ouais.
Après je rajoute du lait, tout ça en fur et à mesure,
ouais.
Jusqu'à temps que la sauce elle épaississe. Après, quand
et
fait...
En plus, il paraît que vous êtes la reine de la béchamel. Vous
oui,
je suis
sans grumeaux.
Sans grumeaux. Ouais, ouais.
Dedans.
Et sans appareil électrique.
Ouais.
Tout à la main.
À la main. Et après, on met du sel poivre. Je mets un peu de muscade.
Ouais.
Ensuite,
pas grave.
Dans une poêle,
ouais.
On met un peu d'huile.
Ouais.
On coupe l'oignon, on épluche l'oignon, on le lave un peu. On coupe en petits morceaux.
Ouais.
La carotte, on l'épluche, on le coupe en petits cubes. On fait revenir l'oignon avec la carotte dans la poêle. Après, on remue un peu. Et quand ça va un peu bien cuit, j'ajoute l'hachis de bœuf. Je mélange tout, je mets sel, poivre. Après, la tomate concentrée de tomate. Après, je mélange bien. Après, je l'étale sur un plat gratiné.
Alors, donc on démarre d'abord par...
On met un peu de béchamel au fond.
D'accord.
Du plat.
Ouais.
Après, on met des feuilles de lasagne.
Voilà.
Après, on met la préparation en hachis de bœuf partout, on met la moitié.
Ouais.
Après, on remet des feuilles de lasagne.
Ouais.
Après, on remet le restant de l'hachis de bœuf avec la carotte et puis l'oignon. Après, on remet des feuilles. Et après, on met le restant de béchamel. Et par-dessus, on met du râpé et on enfourne au four.
Pendant combien de temps?
20 minutes. Jusqu'à temps, il faut contrôler si ça rossit, c'est bien cuit.
C'est bien gratiné au-dessus.
Il faut piquer avec un couteau pour voir si c'est cuit.
D'accord. OK, formidable.
Puis après, on n'a plus qu'à manger.
OK. Et on mange ça avec quoi?
Avec une salade.
Une petite salade, d'accord. C'est quoi votre salade préférée, vous?
Soit la mâche ou une endive.
Ah oui, pas mal. Les endives, ça devient difficile maintenant.
Mais de la mâche.
Ok, de la mâche. Ah,
j'ai
bah,
une
c'est
question
bien.
À poser à Fernand. Tu les achètes toi-même, les feuilles de lasagne?
Ça se vend. C'est des feuilles préparées.
Parce que je connais quelqu'un qui les fait lui-même. Là,
ah non, je ne fais pas moi-même. C'est une copine qui avait des feuilles de lasagne et puis elle s'en servait plus qu'à mes
arts. D'accord.
Mais maintenant, je sais comment faire des lasagnes bolognaises.
Voilà. OK.
Et bon appétit.
Eh ben, bon appétit.
Bon appétit, Fernand.
Merci bien, Fernand.
Je peux faire un message?
Un petit message, allez-y.
Merci pour tout le monde, pour mon soutien, pour être soutenu par le SATTP, par mon infirmière de secteur, par mes copines, mes copains. Quand on me soutient, même que c'est difficile pour moi. Et merci à la radio. Et pour ma sœur Fabienne, qui m'encourage, elle me soutient. Parce que, merci à elle et je lui fais des gros bisous.
Ok.
Bah, merci Fernand, on est contente de te retrouver aujourd'hui.
Ouais. Every breath you take.